L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la crédibilité des médias est mise en question depuis un petit moment. Je ne sais pas, vous, quel avis vous avez sur les médias, le fait qu'ils soient dépendants de grands patrons, le fait qu'on les critique de plus en plus, le fait qu'on voit de plus en plus de fake news, qu'on arrive sur des technologies comme les deepfakes qui rendent encore plus difficile la lecture des médias. Et je me suis posé la question de savoir quelle serait la meilleure personne pour m'en parler. Et je me suis dit que le fondateur du Gorafi était sans doute le plus indiqué pour parler des médias. Et donc aujourd'hui, je reçois Sébastien Libus, qui est donc le cofondateur du Gorafi. Et ensemble, on parle de toutes ces questions-là. On parle aussi évidemment de la genèse du Gorafi. Une conversation évidemment passionnante, avec beaucoup d'humour, logiquement. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Est-ce que tu vas bien ?
Écoute, ça va plutôt bien aujourd'hui.
On va parler médias et pour commencer, et je sais qu'on t'a posé la question mille fois et tu peux me répondre de toutes les manières que tu le souhaites, est-ce que tu pourrais nous expliquer la genèse du Gorafi, sachant que, en fait, c'est marrant parce que quand je m'y suis intéressé, j'avais pas réalisé que ça avait autant d'historique finalement.
Ben, en fait, oui, c'est une très longue histoire. J'étais en train de discuter avec mon ami Vincent Bolloré et on parlait médias. Et il voulait lancer un petit média et tout. Alors, il hésitait entre une chaîne de télé et ou alors un journal papier. Et on a longuement discuté et c'est lui qui m'a soufflé l'idée de faire le Gorafi. D'ailleurs, il a été un de nos auteurs pendant plusieurs années, mais il n'osait pas signer ses articles parce que c'est un grand gars très timide, hyper modeste, mais il est bourré de talent.
Et définitivement,
il est aussi talentueux qu'il est breton. et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est lui qui m'a soufflé mes premières idées, et c'est lui qui m'a soufflé mes premiers millions, et ainsi de suite. Mais en vérité, j'aime bien dire en vérité, je travaillais en fait dans le groupe Bolloré à l'époque quand est née l'idée Gorafi. J'ai quitté justement de manière assez incidente le groupe Bolloré pour me lancer à temps plein sur le Gorafi. Donc j'ai fait partie du grand Satan à une époque, du grand Satan capitalisme et tout, et c'était vachement bien. Le capitalisme, des fois, a ses bons côtés, je tiens à le rappeler. Parce qu'on critique, mais bon, à côté, vous proposez quoi ? Voilà, le grand silence. Et donc en fait oui, j'ai quitté enfin mon contrat a pris fin, c'était au moment où ils rachetaient Canal+, en fait, donc il y avait des passerelles qui étaient en train d'être mises entre les groupes, et moi ça m'intéressait pas trop en fait, on me proposait de devenir community manager, en fait j'avais déjà un poste qui était un petit peu chelou, qui était photographe de plateau, c'est le seul poste de photographe de plateau en CDI à la télévision française, donc déjà c'était une anomalie. Et du coup, voilà, mon contrat arrivait à terme et j'ai créé le Gorafi et puis je me suis lancé là-dedans et Pablo Mira m'a rejoint un peu à peu près à cette période-là. Et ça a été un peu un grand saut dans l'inconnu de se dire est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va pas marcher ? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de sites satiriques en France. Il y en a quelques-uns qui se sont montés courant 2012. Mais à l'époque, on est quasiment les seuls sur le marché, on va dire. Donc ça a été un peu un pari sur l'avenir en disant si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Mais moi je me donnais en gros environ 1-2 ans pour voir si vraiment le truc le truc marchait bien, mais j'avais vraiment pas de plan sur, on va dire, 5, 6 ou 10 ans. Pour moi, c'était même inconcevable qu'on dépasse 3, 4 ans. Si on faisait 2 ans, c'était bien, ça aurait été fun. Mais à chaque fois, j'étais surpris qu'on réussisse à boucler une année, et puis une autre année, et puis ainsi de suite. Et jusqu'au moment où bah, là, vous faites des... Là, on fera les 10 ans en février prochain. Donc, c'est en termes de longévité, d'un point de vue Internet, c'est quasiment une strate géologique, en fait. Vous regardez comment était Internet avant, comment Internet aujourd'hui. Il y a 10 ans, Vine n'existait pas. Aujourd'hui, Vine n'existe plus. La manière dont on consomme l'information, dont elle est diffusée, enfin, voilà, ça va très, très vite. Hein. Regardez, il y a encore 3 mois... Europe 1 existait, aujourd'hui Europe 1 n'existe plus. Donc ça va très très vite en fait en termes d'âge d'Internet. Et ce côté longévité, pour nous, on est assez fiers d'être arrivés à maintenir un rythme de qualité de publication, de rythme de publication et d'accompagner les gens au jour le jour.
Et en plus tu dis bientôt 10 ans, mais avant ça il y a eu un blog. Et avant ça, l'idée même de graphie, elle remonte à... Elle remonte à avant ça, en fait, non, si je ne me trompe pas.
Mais en fait, il est né sur Twitter en février 2012, durant la campagne présidentielle donc de 2012. Et au début, c'était un simple fil Twitter. Et à partir de mai 2012, j'ai commencé à faire des articles un peu plus, plus touffus. Et à partir de l'été 2012, j'ai carrément créé un site à part entière qui a eu son rythme de fonctionnement, on va dire, de manière... rythme de croisière à partir de la rentrée 2012. C'est à ce moment-là d'ailleurs que Pablo Mira me rejoint. Mais durant les 6 premiers mois, on va dire, oui, il y a une existence un petit peu qui alternait entre le compte Twitter, une espèce de plateforme de blog. Et puis après, au fur et à mesure, il s'est étoffé, il s'est agrandi au fur et à mesure qu'on a eu des auteurs et qu'on a entamé une espèce de rythme de publication, on va dire, de manière vraiment hyper, hyper régulière.
Et alors, j'ai une question quand même. Je me demande comment on fait pour passer d'un artiste, en gros, qui est sur un forum et qui critique une chaîne de télé, quoi. En gros, si je ne me trompe pas, ça a commencé comme ça, ton arrivée dans les médias et en particulier à la télé. Comment on fait pour passer de ça à créer le Gorafi? Ouais, ça m'intéresse. Et après, j'ai une autre question autour de l'humour et pourquoi avoir choisi d'être dans la satire.
Bah, en fait, c'est vrai que quand je regarde un peu en arrière, c'est un parcours qui est complètement assez atypique. Où en fait, oui, j'étais sur un forum et je m'amusais à critiquer une chaîne de télé que personne ne regardait, ou en fait qui était regardée uniquement par les membres du forum. Et du coup, quand les animateurs se sont rendus compte qu'il y avait un petit groupuscule sur Internet qui les regardait, qui les commentait, qui les prenait en photo et tout, eux, ça leur a fait du bien parce qu'ils se demandaient est-ce qu'on fait de la télé pour des gens en fait. À l'époque, la blague qui tournait beaucoup était que en fait, Directu tournait en circuit interne dans la Tour Bolloré, mais elle n'était pas du tout diffusée à la télévision. Et du coup, oui, je faisais des petites blagues, des petits dessins, et il y a ce que j'appellerais mon mentor, entre guillemets, qui m'a pris sous mon aile à cette époque-là, qui s'appelle Axel Brucker, qui était directeur de la programmation sur Direct8 à la grande époque, au tout début, et qui m'a remarqué et qui a dit qu'il y a eu cette phrase.